La plupart d'entre nous, nous aimons bien les béatitudes, mais je voudrais aujourd'hui parler de ceux qui n'aiment pas ce texte, qui le trouvent dangereux et même détestable. Jésus est en train de nous dire, je cite, « Seuls les pauvres, les impuissants, les petits, seuls sont les bons. » Ceux qui souffrent, les nécessiteux, les malades, les difformes sont aussi les seuls pieux, les seuls bénis de Dieu. C'est à eux seuls qu'appartient la béatitude. Par contre, vous autres, vous qui êtes nobles et puissants, vous êtes de toute éternité les mauvais, les cruels, les avides, les insatiables, les impies, et éternellement vous demeurerez aussi les réprouvés, les maudits, les damnés. Peut-être vous avez reconnu le style provocateur de Friedrich Nietzsche. Pour lui, les béatitudes, c'est une parole néfaste, à la fois parce qu'elles écrasent les malheureux, car elles leur font dire qu'ils sont heureux, et aussi c'est une parole qui désespère les chrétiens, qui, sans être des puissants, ne sont pas pauvres par chance de la vie. Ils ne manquent pas d'un certain savoir, d'un certain avoir, d'un certain pouvoir, mais ils en seraient coupables. Cette diatribe de Nietzsche est bien sûr caricaturale et injuste, mais elle a le mérite de faire un effet Karcher sur notre compréhension de l'évangile du jour et d'admettre au moins que ce discours si précieux de Jésus, la charte du royaume, son testament, est en fait un texte dangereux, même subversif. Est-ce que c'est l'exaltation de la faiblesse que prône ici le philosophe, que prône ici Jésus, comme le dit Nietzsche, ce qui rendrait le texte insupportable? En fait, personne normalement constitué n'envisagerait spontanément le bonheur en étant pauvre, en ayant faim et soif, en étant pauvre et insulté. Comment comprendre les béatitudes? Comment comprendre qu'elles annoncent une nouvelle conception du monde et de l'humanité? Paul vient de nous dire ce qui est faible, il dit aussi ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages et les forts. Ce n'est pas dans l'Évangile, mais il se peut bien que certains, après avoir entendu les béatitudes, aient réagi comme après le discours du pain de vie. Les gens de la synagogue, vous vous le rappelez, de Capharnaüm, ont dit « ces paroles sont trop dures à entendre ». Et un certain nombre étaient des disciples et ils sont partis. Il y a un trésor caché dans les béatitudes, mais on ne l'approche pas si facilement que cela. Le texte des béatitudes rejoint ce qu'il y a de plus profond en nous. Il invite à la pauvreté de cœur et non à l'accumulation des biens, à la volonté d'être toujours propriétaire. Il invite à la douceur, à la pureté de cœur et non à la duplicité. Il invite à la justice et non à la dureté ou la fraude. Et contrairement à ce que pense Nietzsche, ces valeurs supposent une grande détermination, un grand courage, une grande force d'âme. Mais il pourrait nous rétorquer « Ah, vous faites allusion aux béatitudes qui sont compréhensibles. » Et les autres alors? Ce sont les plus dangereuses, celles qui parlent des affligés, de ceux qui pleurent, des persécutés, des insultés. Ils pourraient nous dire « Mais alors, qu'en faites-vous ?» Et c'est là le bon sens nous dit qu'elles sont incompatibles avec le bonheur. Serait-ce que votre Christ vous inviterait à la souffrance? Il faut avouer que la critique est redoutable. Tant qu'on n'aura pas expérimenté la force du Christ en nous, que lorsque notre vie est parsemée d'épreuves, elle peut être aussi marquée par la vie de résurrection. expérimenter la puissance de résurrection dans notre vie lorsque vient la croix. Oh, cela ne supprime pas la souffrance. On n'est pas heureux grâce aux souffrances. Nietzsche aurait raison de le dénoncer. Mais nous découvrons la présence du Christ dans ces moments de grande peine. Nous pensons peut-être plus particulièrement au moment de deuil que nous avons connu. Oh, il est difficile d'aller plus loin. Le discours sur la souffrance demande beaucoup de pudeur et seuls les témoignages a posteriori peuvent nous en parler. Les béatitudes seraient donc à lire qu'à la lumière du mystère pascal, à la lumière de la croix et de la résurrection de Jésus. Les béatitudes ne nous donnent pas de conseils, ils nous proposent une vie de communion. Contrairement à ce que pense Nietzsche, c'est un don gratuit de Dieu que nous pouvons expérimenter et contempler. Je terminerai en mentionnant une autre personne, Gandhi. Gandhi lui reconnaissait les béatitudes, paraît-il, comme un des plus beaux textes de l'humanité, alors que lui-même n'avait pas fait cette expérience de la communion au Christ pascal. Gandhi, il avait, paraît-il, le portrait de Jésus dans sa pièce principale, où il y avait marqué en dessous « paix ». Il était issu du jainisme indien, il a connu le christianisme par Tolstoï, par lui il avait découvert les béatitudes comme la charte puissante de la non-violence, et voilà ce qu'il écrit. À mesure qu'augmentait mon contact avec les vrais chrétiens, je vis que le sermon sur la montagne était tout le christianisme. Pour qui veut vivre la vie chrétienne, c'est ce sermon qui m'a fait aimer Jésus. Je vous propose dans ce soir ou dans les jours qui viennent de relire ces passages pourtant bien connus, quelquefois pourrait être trop lisse à force de les entendre. On pourrait presque les apprendre par cœur, ces 8 béatitudes. On peut même les transformer en prière. Je pense à quelqu'un et je dis « Heureux ceux qui pleurent, Seigneur, je te confie telle personne afin qu'elle soit consolée par toi. » Je peux avoir un moment de ressentiment, même de colère, et je dis « Seigneur, heureux les doux, apprends-moi la douceur pour recevoir la terre en héritage. » Je peux avoir cette immense faim et soif de la justice en regardant les actualités, mais je demande que cette faim, eh bien, elle me mette en action, etc., etc. Alors nous serons réellement les disciples du royaume. Amen.